Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
On est à RDC, plusieurs enfants meurent avant l'âge de 5 ans. D'après l'ONG International World Vision, la malaria, les infections respiratoires et les diarrhées aiguës sont à la base du CDC. Comment alors lutter contre la mortalité infantile en RDC? Nous avons avec nous dans ce studio le docteur Eli Mukinda, chargé du département santé à World Vision. Docteur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Docteur, ce qu'on peut savoir aujourd'hui, quel est le taux de la mortalité infantile en RDC?
Merci beaucoup. Le taux de la mortalité infantile en RDC est l'un des plus élevés dans le monde. Les dernières statistiques révèlent qu'on a 158 décès des enfants de moins de 5 ans sur 1000 enfants qui naissent en vie. Et c'est l'une des plus grandes mortalités, comme je le disais. Parce que dans le monde, il y a à peu près 6 pays qui ensemble réunissent la moitié de la mortalité des enfants de moins de 5 ans au monde. Et parmi ces pays, la RDC est malheureusement du nombre.
La RDC est parmi les 6 pays où le taux de mortalité est très élevé. Et on aimerait également savoir, vous avez dit, ça dit qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent avant d'atteindre leur 5e anniversaire, c'est-à-dire l'âge de 5 ans. Mais est-ce que dans ce taux dont vous avez parlé de 158 cas de décès sur 1000 naissances vivantes, est-ce qu'il y a, également des taux par rapport aux enfants qui meurent peut-être un mois avant, 6 mois avant, une année avant?
Oui, quand nous disséquons cette mortalité des enfants de moins de 5 ans, nous nous rendons compte que à peu près 42 enfants qui naissent vivants n'arrivent pas à atteindre un mois d'âge, c'est-à-dire avant leur 28e jour de vie, ils arrivent à décéder. Ensuite, à ces 42, ceux qui survivent, il y en a à peu près 55 qui finissent aussi par décéder avant d'atteindre l'âge de 1 an. Ça fait une mortalité globale de moins de 1 an de 97 pour 1000. Donc, si nous prenons 1000 enfants qui naissent vivants aujourd'hui, il y a une très grande probabilité que 97 ne puissent pas atteindre leur premier anniversaire. Et au-delà de ces 97, nous avons à peu près 61 qui vont décéder au-delà de l'âge de 1 an, mais avant l'âge de 5 ans. Alors, quand vous faites la somme de la mortalité de moins de un mois, et la mortalité avant 1 an, et la mortalité avant 5 ans, totalement, nous avons 158 décès pour 1000 enfants. C'est quand même très élevé, parce qu'il y a des pays qui sont à moins de 10, des 10 enfants qui meurent pour 1000 naissances vivantes.
Alors, parmi les maladies citées qui sont à la base de tous ces décès d'enfants avant l'âge de 5 ans, on cite la malaria, on cite les infections respiratoires aiguës, la diarrhée et la rougeole. Il y a également la malnutrition. Est-ce que, en ordre de croissance, on peut commencer par quelle maladie qui vient avant, la maladie qui cause plus de décès d'enfants? Est-ce qu'on peut penser à la malaria, aux infections respiratoires aiguës?
Oui, cette mortalité dont vous venez détailler les causes, c'est la mortalité des enfants de plus de 28 jours, dans laquelle nous avons la malaria qui vient en tête. Ensuite, les infections respiratoires aiguës. Ici, dans ce cas, nous citons la pneumonie particulièrement. Ensuite, nous avons les cas des décès liés aux diarrhées. Et enfin, la rougeole et d'autres infections évitables par la vaccination. Donc, si nous devions ranger par ordre de préséance en termes de poids ou de pondération de mortalité, la malaria vient effectivement en tête, suivie de la pneumonie, les diarrhées, ensuite la rougeole et d'autres infections évitables par la vaccination et enfin le HIV, le VIH-SIDA.
Alors, s'il faut déjà parler de comment faire face à toutes ces maladies, comment faire en sorte qu'on puisse lutter contre la mortalité infantile en RDC, il faut commencer par, c'est la prise en charge d'abord qu'il faudra améliorer. Il faut commencer d'abord par rapport aux maladies qui sont évitables par la vaccination, à vacciner tous les enfants. Et comment on doit procéder pour faire face à cette situation?
Oui, la question est assez complexe et il faut dire qu'il y a beaucoup beaucoup d'acteurs qui doivent intervenir dans la réduction de la mortalité. C'est ainsi qu'il y a même des engagements au plus haut niveau entre les gouvernements qui ont signé des conventions dans le sens de l'atteinte rapide des objectifs du millénaire. Alors, cela implique beaucoup d'acteurs et beaucoup d'efforts des uns et des autres. Mais nous pensons qu'il est possible de réduire cette mortalité par des pratiques les plus banales apparemment et les plus anodines, mais dont l'impact est très grand. Il est établi aujourd'hui que, par exemple, rien que le fait d'allaiter, l'allaitement maternel exclusif, qui va jusqu'à l'âge de 6 mois, on peut réduire cette mortalité de 13%.
Donc d'abord encourager les mamans à allaiter les enfants exclusivement les maternels jusqu'à l'âge de 6 mois.
Exact. Donc vous voyez quelque chose de simple qui ne demande pas un grand investissement. C'est juste la maman qui doit allaiter pourrait avoir un impact qui va jusqu'à 13% de la réduction de la mortalité. Et quand on prend une intervention comme le lavage des mains, le simple lavage de mains comme il faut, quand on le fait de manière appropriée, on arrive à réduire la mortalité d'à peu près 7%. Donc c'est pour dire que chacun, au niveau où il est, il peut arriver à réduire cette mortalité. Et souvent, c'est par des gestes très très simples, des gestes de la vie quotidienne qui ne coûtent pas beaucoup d'argent, qui peuvent arriver à réduire cette mortalité.
Mais pour le cas de la malaria, on encourage également les familles à utiliser des moustiquaires imprégnés d'insecticides, mais ça pose un problème. Il y a des endroits où on ne sait pas trouver ces moustiquaires. C'est ce qui demande également l'implication vraiment de tout le monde pour arriver à permettre l'accès à toutes les familles, excusez-moi, aux moustiquaires imprégnés d'insecticides.
Tout à fait. La chose est réelle. On ne peut pas arriver à prévenir la malaria sans qu'on utilise réellement et efficacement la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Il y a effectivement des coins du pays où l'accessibilité à la moustiquaire n'est pas garantie. Mais nous devons aussi saluer un effort louable de beaucoup, beaucoup, beaucoup de partenaires et des gens de bonne foi qui mettent leur argent pour arriver à augmenter la couverture en moustiquaire. Les grands bailleurs de fonds et les grands donateurs se sont investis en cela. Et la RDC est parmi les pays qui jouissent ou qui bénéficient d'une très grande assistance en termes de donations, en termes de moustiquaires imprégnés, avec ce qu'on appelle le Fonds mondial, avec les autres bailleurs comme l'USAID et DFID, qui sont des grands pourvoyeurs. Et nous pensons qu'aujourd'hui, la couverture en moustiquaires pour la République avoisine à peu près les 60%. Mais l'effort est continu et nous espérons que d'ici là, on pourra atteindre une couverture de 80%.
Alors, docteur Eli Mukinda, parmi les maladies citées, on parle également de la diarrhée qui est à la base de beaucoup de cas de décès chez les enfants de moins de 5 ans.
Oui.
Et pour la diarrhée, on laisse entendre que l'une des graves conséquences, c'est la déshydratation.
Exact.
Est-ce que par rapport à ça, il y a aussi des méthodes simples à utiliser pour combattre la déshydratation?
Oui, la première chose... Pour combattre d'abord la diarrhée, nous devons travailler sur le volet préventif, c'est-à-dire nous avons cité le lavage des mains, c'est une chose très très simple. Ensuite, toujours dans le cadre de la prévention, c'est le fait de traiter l'eau comme il se doit. On peut bouillir l'eau pour avoir une eau qui est suffisamment potable. Et il existe aussi des moyens assez simples comme la chloration pour avoir une eau traitée. Alors, quand la diarrhée survient, l'une des grandes... armes que nous avons aujourd'hui, c'est d'arriver à donner un petit paquet qui contient une préparation, une formule, qui est une poudre qu'on dilue dans l'eau. C'est quelque chose de très simple que toutes les mamans devraient apprendre.
C'est ce qu'on appelle le sel de réhydratation orale.
Voilà, le sérum de réhydratation orale. C'est quelque chose de très simple, mais il faudrait suivre les recommandations en termes de proportion entre le sel et le sucre. Et quand on donne à l'enfant cette composition, on diminue le risque de déshydratation. Mais au-delà de ce paquet, dans le cadre de la lutte contre la déshydratation et le décès par la diarrhée, nous formons aussi les agents communautaires à communiquer aux mamans comment préparer cette formule, mais aussi à reconnaître les signes des dangers, c'est-à-dire à partir de quel moment la maman doit prendre l'enfant et le mener vers le dispensaire. À partir de quel moment il devient impérieux de solliciter les services des santé spécialisées. Donc, les services...
Là, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont des fois négligents. C'est-à-dire
exact.
Que ils attendent que la situation s'empire pour acheminer l'enfant à l'hôpital. Et donc, il y a déjà, pour la malaria, par exemple, il y a déjà des signes qui peuvent déjà alerter les parents. C'est-à-dire que c'est le moment d'amener l'enfant dans un centre médical.
C'est ça. Alors, nous pensons que le gros de l'effort, il est préventif. Il faut prévenir. Et quand la maladie est déjà là, nous sommes en train de nous battre pour équiper les parents et les tuteurs à ce qu'ils reconnaissent rapidement les signes de danger, c'est-à-dire une fièvre, dans le cas de la malaria, puisque vous avez parlé de la malaria, une fièvre qui a duré plus de 24 heures et qu'il n'y a pas une rémission avec les premiers produits, on devrait amener l'enfant à l'hôpital.
Voilà, mortalité infantile en RDC, comment y faire face? Nous avons avec nous dans ce studio Dr Eli Mukinda. Il est chargé du département santé à World Vision. Vous êtes intéressé par le sujet. C'est le moment d'appeler au 081 890 63 94 ou de nous faire parvenir un SMS au 081 711 50 01.
Ok.
Écho d'économie sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Docteur Eli, vous avez également parlé d'une autre maladie qui est à la base de cas de décès d'enfants. Il s'agit des infections respiratoires aiguës, notamment de la pneumonie. Est-ce qu'il y a également, on peut avoir une idée comment prévenir cela?
Oui, par rapport à la pneumonie, c'est une maladie où nous sommes en train d'équiper les parents à la reconnaître. Généralement, c'est quand on est en présence d'un enfant qui respire difficilement et souvent avec un état de fièvre qui s'accompagne. Donc la première chose, c'est la détection ou la reconnaissance de la maladie, et cela implique qu'on puisse...
Qui respire difficilement, qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous avez comme l'impression que l'enfant a fait un gros effort pour respirer?
Exact, l'enfant a de la peine à inspirer et à expirer, alors ça peut être un signe pour les parents, et surtout quand il y a la fièvre qui s'accompagne. Et cela devrait nécessiter qu'on puisse chercher les soins de santé. Une simple molécule qu'on utilise chez nous, c'est le cotrimoxazole, le Bactrim, qui en général est capable d'endiguer le mal. Mais aussi, il faut dire que dans notre pays, la pneumonie est parmi les maladies dont on arrête la survenue par une vaccination. Donc, nous avons déjà quelques antigènes qu'on utilise depuis 2011 pour empêcher la survenue de la pneumonie bactérienne. Donc, il faudrait que les parents aient aussi le temps de faire prévenir la survenue de la pneumonie en fréquentant les centres de vaccination, les centres de suivi.
Parce qu'au niveau de World Vision, vous sensibilisez également les parents par rapport à ce vaccin. C'est un vaccin qui a été introduit il n'y a pas longtemps.
Exact. Nous sommes en train de faire la promotion du respect de tout le calendrier vaccinal. Donc, les parents devraient faire un effort pour suivre tout le calendrier selon qu'il est établi par le gouvernement de la République du Congo. Nous avons le calendrier national avec des vaccins qui sont obligatoires et quelques vaccins facultatifs ou optionnels. Alors, les parents sont encouragés à amener leurs enfants dans le cadre du suivi de croissance. Ils devraient les amener au centre de santé pour qu'ils reçoivent aussi toute la batterie des vaccins qui est établie au niveau de la RDC.
Docteur Eli, il y a également un autre problème qui n'est pas de moindre, c'est celui de la malnutrition. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent également de malnutrition. Est-ce que là également, il y a moyen de prévenir tous ces cas de décès à cause de la malnutrition?
Oui. Vous avez indiqué que la malnutrition, on ne la cite même pas parmi les causes de décès. Elle est vraiment le lit sur lequel viennent se coucher toutes les autres causes.
Au fait, parce qu'un enfant mal nourri, il ne sait pas avoir de bons anticorps, il ne sait pas avoir un cœur fort pour faire face à...
Tout à fait. Ouais. Donc la malnutrition devient vraiment le facteur favorisant, comme le facteur qui ouvre la porte aux agresseurs. Alors, la malnutrition est vraiment très élevée au niveau du Congo. Tenez, quand vous prenez le nombre d'enfants qui vivent avec un retard de croissance, c'est-à-dire quand vous prenez leur taille par rapport à leur âge, vous trouvez que ce taux est d'à peu près 46% des enfants qui vivent avec un retard de croissance, alors que ceux qui sont en insuffisance pondérale, c'est à peu près 24%. Et ceux qui sont en émaciation, c'est-à-dire les enfants dont, quand vous prenez son poids par rapport à sa taille, il y a une maigreur. Ce taux est presque de 10%. Donc, nous sommes tous, quand vous prenez tous ces chiffres, nous sommes dans des états alarmants, des états critiques, qui demandent absolument qu'il y ait une intervention. Mais comme nous l'avions dit, tous ces cas ne nécessitent pas nécessairement de gros moyens, comme on pouvait le penser. Pour la malnutrition, la première chose qui est très simple, c'est l'allaitement maternel. Donc, un enfant qui a été allaité correctement au sein depuis la naissance, donc depuis dans la première heure de la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois, nourri au sein et exclusivement à la demande, eh ben un tel enfant, il est prémuni, il est prévenu de faire une malnutrition. Ensuite, à partir de l'âge de 6 mois, on devrait continuer à allaiter, mais on introduit d'autres aliments. C'est ce qu'on appelle l'alimentation de supplémentation ou de complément. Alors, il y a aussi une manière...
D'autres aliments, lesquels par exemple?
C'est-à-dire qu'on peut maintenant passer aux autres types d'aliments, les aliments semi-liquides, les aliments solides, dont la consistance et la teneur diffèrent. C'est-à-dire on passe maintenant aux différentes formes de protéines animales autres que le lait, on passe aux différentes formes de graisses et aux différents types de sucre.
Docteur Eli, on revient à vous, le temps d'accueillir, nous avons déjà un auditeur en ligne, Pongo est en Bujima. Pongo, bonjour. On vous écoute, vous avez la parole.
Oui, la question est la suivante. Lorsque la maman n'a pas une bonne alimentation, donc elle est sous une alimentation précaire, est-ce que cela peut aussi avoir des conséquences sur l'enfant ou causer la mortalité infantile?
Merci.
La malnutrition chez la maman.
Merci beaucoup, Pongo. On rappelle que vous intervenez depuis Mbujimayi dans la province du Kasaï-Oriental. Docteur Eli, une femme, une maman qui est sous-alimentée, ça peut avoir aussi des répercussions sur la mortalité infantile.
Merci beaucoup, cher ami Pongo. Là, nous devons nous situer à deux niveaux. Au niveau de l'allaitement maternel, la maman qui est mal nourrie produit quand même un lait. Et ça, c'est le créateur dans sa sagesse. Il a fait que le lait d'une maman qui est la plus pauvre et le lait d'une maman qui est la plus riche, en termes de qualité, ce lait est le même. C'est-à-dire que le créateur a arrangé de sorte que le lait contienne tous les ingrédients dont l'enfant a besoin. Mais il est vrai que cette maman, pour qu'elle allaite aussi, elle a besoin d'être nourrie. Mais en termes de qualité du lait, le lait aura la même qualité. Mais la maman a besoin aussi de force, elle a besoin d'énergie, c'est là que maintenant intervient sa nutrition. Mais en termes de la qualité du lait qui est produit, il est le même. Alors, le deuxième point, c'est que si la maman est mal nourrie, fort probablement qu'elle n'en a pas assez, elle n'a pas assez de nourriture pour elle-même. C'est-à-dire que quand l'enfant atteint l'âge de 6 mois et qu'il doit commencer l'alimentation de complément, probablement la nourriture qui pouvait être destinée à cet enfant risquerait d'être partagée entre elle, la maman, parce qu'elle n'en a pas assez, et l'enfant qui est aussi dans le besoin. C'est là que l'enfant risquerait de se retrouver dans un état de sous-nutrition à cause de la carence en nourriture qui ne convient pas pour les besoins de la famille.
Il y a des aliments que vous conseillez aux femmes qui allaitent de manger un peu fréquemment?
Les femmes qui allaitent sont priées de manger tous les aliments possibles, mais nous avons les aliments qui sont considérés comme lactagogues, c'est-à-dire qui produisent ou qui favorisent une grande production de lait.
Les maternels, oui.
Et parmi ces aliments, il y a tous les aliments qui sont riches en vitamine A. Alors, nous avons les légumes en général, nous avons l'huile végétale et les fruits. Ce sont des aliments qui sont lactagogues et qui aident, n'est-ce pas, à une grande production de lait. Mais sinon, tous les aliments sont permis sans qu'il y ait une quelconque restriction. Sauf que la petite chose qu'il faudrait noter, c'est que pour une maman qui allait, mais qui a le VIH-SIDA, il faudrait reconsidérer totalement sa question et peut-être cela pourrait faire l'objet de toute une autre émission.
Voilà, nous avons en ligne Gauthier Itoko qui nous appelle de Mandaka, dans la province de l'Équateur. Gauthier, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour au docteur.
On vous écoute, Gauthier.
Ouais, j'ai une petite question au docteur. La question, je voulais savoir si une mauvaise consultation prénatale et une mauvaise consultation préscolaire peuvent être à la base de la mortalité infantile. Si oui, pourquoi?
Voilà, merci à Gauthier Toko, docteur Eli.
Merci beaucoup Gauthier. Vous dites vrai, une consultation prénatale qui n'est pas adéquate pourrait contribuer à la mortalité. Comme nous avons signalé, il y a à peu près 42 enfants, 42 nouveaux-nés sur 1000 qui mourront avant d'atteindre l'âge de 8 ans, de 1 mois. Cela est souvent relatif, n'est-ce pas, à la mauvaise qualité des consultations prénatales, parce que quand il y a un bon accompagnement de la maman pendant la grossesse, il y a pas mal de causes qui peuvent être, n'est-ce pas, diminuées. Je cite ici, par exemple, le cas des tétanos. Une maman qui a bien suivi ses consultations prénatales aura reçu ses vaccins contre les tétanos. Et donc, l'enfant qui naîtra sera protégé d'un tétanos néonatal éventuel. Alors, la consultation préscolaire aussi est nécessaire parce que elle nous permet de suivre suivre la croissance de cet enfant. Par exemple, un enfant qui serait en train de basculer dans un état de malnutrition, on aura eu vite le temps de déceler que cet enfant est en train d'évoluer vers la malnutrition et l'action qui s'impose sera prise avant que l'enfant tombe dans un état de malnutrition sévère qui est vraiment propice à la mortalité. Donc les deux facteurs sont des facteurs sous-jacents très importants qui peuvent affecter d'une manière ou d'une autre la mortalité de l'enfant.
Freddy Kabamba nous appelle de Lubumbashi dans la province du Katanga. Freddy, bonjour. Freddy, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, oui. Freddy.
Ça va. Moi, j'ai une question à poser à notre invité. Si la maman a mis au monde à peu près 4 jours, la maman a décédé, quel est le mécanisme qu'on peut utiliser pour que cet enfant-là, qu'il grandisse dans bonne santé? Après, je me tourne à notre invité. Pourquoi le Congo, ce n'est pas Kinshasa ou ici à Lubumbashi ou à Goma ou partout? Puis j'ai dit, quand on donne les moustiquaires, on est en train de donner ce qui est en ville. D'ailleurs, ce qui est en train de pénétrer, ce sont les enfants qui ont en village. Même les vitamines A, on est en train de donner, ce n'est que les enfants qui ont ici en ville. Pourquoi on ne donne pas les enfants qui ont en village? Tout de suite, j'étais au village. J'étais au niveau de Kabongo, j'étais allé là-bas pour faire des trafics. J'ai trouvé là-bas, les enfants sont en train de mourir comme des bêtes. Parce qu'il n'y a pas de moustiquaires là-bas. On vaccine pas même des enfants. Et je suis en train d'interroger notre invité. Pourquoi on ne vaccine pas les enfants qui sont dans un coin?
Merci.
Je m'arrête là.
Merci Freddy, docteur Eli.
Oui, merci beaucoup Freddy. Pour moi, la question a deux volets. Le premier volet, c'est de savoir quelle serait la conduite à tenir pour un enfant dont la mère décède juste 4 jours après la naissance. Nous avons dit que ce qui est crucial pour cet enfant et ce qui est vital, en dehors de la vaccination et tout le reste, c'est son alimentation. Et ici, nous avons cité l'allaitement maternel. À l'époque, ce qu'on faisait, on pouvait trouver une nourrice ou une maman qui allaite pour qu'elle puisse prendre soin de cet enfant. C'était pas non plus évident. On pouvait voir dans un proche entourage si cela était possible. Mais de nos jours, il est important d'abord de s'assurer que cette mère n'est pas séropositive au cas où on devrait le faire.
Ça, oui.
Mais nous avons des options de remplacement. C'est-à-dire que quand nous parlons de l'allaitement maternel exclusif, ça, c'est ça le principe. Et c'est cela qu'on devrait faire. Mais au cas où on ne peut vraiment pas le faire, le médecin ou le pédiatre va prescrire un lait maternisé, c'est-à-dire un lait qui est extrêmement proche en termes de composition au lait maternel. Et dans ce cas-là, on peut, n'est-ce pas, arriver à traiter cet enfant ou à le nourrir pendant les 6 mois exclusivement cela. Ça, c'est pour la première question. Ensuite, vous avez noté une certaine disparité ou une certaine discrimination en termes de traitement par rapport aux milieux ruraux. Je crois que le gouvernement encourage que toutes les couches et tous les coins du pays soient touchés. Le gouvernement, je veux dire le ministère de la Santé, est l'un des ministères qui est présent partout, à travers les centres de santé, à travers les postes de santé, ainsi de suite. C'est-à-dire quand on fait une campagne de vaccination, la planification commence par le niveau central, c'est vrai, mais le bénéficiaire, c'est l'enfant qui se trouve à Kabongo, vous avez été. Et en ce qui concerne la vitamine A, en ce qui concerne les moustiquaires, c'est la même chose. Mais pour certains intrants, comme la moustiquaire, il n'est pas possible d'avoir en une seule campagne une histoire de 15 millions de moustiquaires, par exemple. C'est ainsi que le gouvernement définit les priorités. Et c'est ainsi que le gouvernement peut échelonner sur 4 ou 5 ans comment on va distribuer cela. Et je ne pense pas que le fait que les enfants sont en milieu rural doit ou est un facteur de discrimination pour eux. Pour le gouvernement, chaque enfant est un citoyen de ce pays et il a droit aux soins de santé primaires comme n'importe quel enfant, partout où il est, il a droit pareillement et de manière égale à ses soins.
Voilà, docteur Elion, on va accueillir tout à l'heure un autre auditeur, Kalenda, qui a le Bombashi, mais il y a une question qui me vient à l'esprit. Juste pour savoir, vous êtes du département santé de World Vision. Est-ce que, au niveau de votre ONG, vous réalisez aussi ces genres d'activités de distribution de moustiquaires en prenant des insecticides?
Oui, World Vision travaille en collaboration avec beaucoup de partenaires et beaucoup de bailleurs. Nous travaillons comme sous-bénéficiaires du Fonds mondial pour la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et la malaria. Et dans ce cadre, nous recevons aussi des moustiquaires que nous distribuons à la population. Mais nous pensons, nous, qu'il n'est pas important que de distribuer l'intrant. Il est plutôt aussi très important d'éduquer la population sur l'utilisation et l'importance
de moustiquaires. Kalenda est à Lubumbashi, dans la province du Katanga. Willy Ali Kassi, toujours dans la même province. Un coucou à tous nos auditeurs de la province du Katanga. Kalenda, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Merci beaucoup. J'ai une question seulement pour poser à notre invité.
Allez-y.
Ok, la question est celle-ci. Si mon bébé est atteint de la malaria, qu'est-ce que je vais lui donner comme médicament avant que je l'amène à l'hôpital?
Voilà, c'est la seule question que vous avez, c'est tout. C'est la seule question, Kalenda.
Oui, exactement, c'est ça même.
Et comment vous saurez que l'enfant souffre de malaria? Vous saurez comment?
Bon, peut-être il y a la brûlure de son corps, peut-être le bébé ne mange pas bien, il pleure en tout le temps. Bon, peut-être moi j'imaginerais que peut-être c'est la malaria.
Voilà, docteur Elie va vous répondre par rapport au signe dont vous avez cité plus tôt. Nous avons Willy qui est également Likassi, qui est plutôt Likassi dans la province du Katanga. Willy, bonjour.
Bonjour, docteur.
Non, on vous écoute, Willy.
Ma préoccupation est la ceci. Le vaccination dont le docteur invoque. Moi, je ne peux pas, j'ai été victime, madame a accouché ce samedi. Et pour que l'enfant soit vacciné, il faut payer 1000 francs. Est-ce que le gouvernement ne prend plus en charge le vaccin? C'est nous-mêmes, les parents, qui prenons en charge. C'est tout ce qui peut encore augmenter le taux de mortalité des enfants. Si les parents n'ont pas les moyens, nous savons que le vaccin, c'est le gouvernement qui paye ça. Maintenant, c'est nous-mêmes, les parents, qui payent le vaccin. Et l'enfant, pour être vacciné, la vaccine de routine, il faut payer l'argent. Pour que la madame suive la CPN, la fête qu'il faut donner, il faut donner l'argent. Je voudrais que les invités puissent nous éclairer ou l'État ne soit plus capable d'assurer la vaccination.
Merci, Willy. Mitterrand et Akikuit, dans la province du Bandundu. Bonjour, Mitterrand.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Je rappelle que c'est Mitterrand Akikuit. Par rapport au sujet du jour, mon intervention a une dimension ambivalente. C'est-à-dire, je vais intervenir à deux volets pour diminuer, n'est-ce pas, la mortalité infantile. Alors, d'abord, il faut qu'il y ait une sensibilisation de la population sur le plan, surtout, de la propriété. Là, je parle de l'assainissement. Parce qu'on a l'impression que dans le milieu où nous vivons, les gens ne tiennent pas compte vraiment de la propriété. Vous verrez une famille, la toilette ou la douche n'est pas si éloignée de la maison et comprenez, les enfants s'amusent ou les enfants touchent n'importe quoi et cela expose les enfants plus à des maladies, surtout dans des voies respiratoires. Alors, le deuxième volet, n'est-ce pas, de mon intervention, toujours pour prévenir à la mort des enfants, il faut aussi sensibiliser surtout la jeune fille, monsieur le journaliste. Vous savez, lorsque la jeune fille, surtout celle qui quitte, la jeune fille pense que lorsqu'on a 12 ans, on a 13 ans, bien, on est capable d'avoir un enfant, c'est aussi une maladie. Parce qu'on ne dispose pas assez d'atouts de qualité pour savoir comment aider l'enfant à s'épanouir. Et surtout, la peuple que nous sommes, celle qui quitte. Vous verrez, les jeunes filles ont besoin de pantalons, ainsi de suite. Et au mois de mai, janvier, disons, au mois de mai, juin, on risquerait d'appeler n'importe quel type de jeune fille maman. Et à ce moment-là, on ne sait pas quoi faut-il faire pour aider l'enfant. L'enfant aura besoin de quoi? Et on expose l'enfant à des différentes maladies. Donc, il faut sensibiliser sur la jeune fille pour son épanouissement. Voilà mon intervention.
Merci, Mitterrand, docteur Eli.
Merci beaucoup pour les différentes interventions. Je m'en vais répondre à Kalinda. Donc, pour nous, dans la dynamique du changement de comportement, nous pensons que l'État devrait jouer un grand rôle à travers les animateurs communautaires qui sont censés donner l'éducation sanitaire dont on a besoin. Et dans cette éducation, il y a aussi des sujets d'information. En ce qui concerne la malaria, donc on doit éduquer les parents à reconnaître la maladie. Et ça, ce n'est pas au pifomètre comme ça qu'on doit se dire, voilà, il y a une malaria. Exactement. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent mener à dire qu'il y a une malaria. Mais au cas où la malaria est établie, dans notre pays, il y a une politique nationale de prise en charge. Et les médicaments que nous utilisons, nous avons d'abord des antipyrétiques pour faire chuter la fièvre, mais aussi nous utilisons les molécules qu'on appelle les ACT. Donc c'est une combinaison, c'est une thérapie de combinaison qui utilise l'artémisinine. Alors là-dedans, vous pouvez avoir le quartésiane, vous pouvez avoir le artéméter, ainsi de suite, des molécules de la première ligne. Et quand ces molécules ne marchent pas, il faudrait aller au Santé-Santé qui peut être équipé pour donner les médicaments de la deuxième ligne, dont la quinine, selon le schéma qu'ils ont étudié. Donc voilà ce que je peux vous dire à ce stade, mais ne vous gênez jamais d'aller au centre de santé pour demander conseil et avoir des avis autorisés.
Alors, et Willy qui a eu à débourser 1000 francs pour que son enfant soit vacciné.
C'est quand même une question assez délicate. Tout dépend de la convention qu'a le centre de santé avec la zone de santé. Mais en pratique, la vaccination ne se paye pas. C'est quelque chose qui est donné tout à fait gratuitement. Mais c'est chaque zone à son niveau qui doit arriver à régulariser ces choses. C'est-à-dire, puisque les vaccins sont des intrants de la zone de santé ou du gouvernement, quand ils les cèdent à un centre de santé, on devrait aussi, n'est-ce pas, arriver à régulariser la distribution, dire si c'est payant ou si ça ne l'est pas, ainsi de suite. Donc, théoriquement, ça devrait être gratuit, mais c'est le rôle de chacun, à mon avis, et vous, Willy, qui vous plaignez, et l'entourage, de voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Donc, le gouvernement à Kinshasa ne sait pas nécessairement que ce service se fait payer. C'est vous qui devez le dénoncer et comprendre avec la zone de santé si la chose est autorisée ou pas. Et ça dépendra d'un centre de santé à un autre.
Et on va finir avec cette contribution, il faut l'appeler comme ça, cette contribution de Mitterrand qui demande qu'il faut que les gens prennent à assainir également les milieux.
Oui.
Vous en avez d'ailleurs parlé par rapport à des maladies comme la malaria, oui. Par rapport à certaines maladies qu'on peut contracter, par exemple la diarrhée, juste parce qu'on n'a pas
lavé les mains.
On n'a pas su laver les mains.
Oui.
Voilà, je crois qu'on va terminer par là, docteur Eli Mukinda. Nous rappelons que vous êtes chargé du département santé à World Vision et vous étiez notre invité pour parler de la mortalité infantile en RDC, comment y faire face. Merci beaucoup.
Un grand merci. Je vous remercie.